Donc, je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont arrivées ou parties entre-temps. Parties quelques-unes, je pense, on est un petit peu moins. Arrivées quelques-unes aussi. En tout cas, si vous arrivez à nous rejoindre pour le deuxième message, ce n'est pas grave du tout, parce que ce serait intéressant d'avoir eu la base qu'on a posée dans un premier temps, mais on va aussi revenir sur ces quelques éléments dans ce deuxième message. Oui, tout est enregistré, donc si jamais c'est possible de réécouter après tout. Dorothy Sayers, qui est une femme de lettres et une romancière chrétienne, bien connue en Angleterre surtout, a écrit un article au début du XXe siècle qui s'intitule « Pourquoi travailler ?». Et voilà ce qu'elle dit dans cet article, et vous allez voir qu'elle était très visionnaire, parce que ce qu'elle dit est encore valable aujourd'hui. Écoutez bien. Elle dit « Il n'est aucun domaine où l'Église n'est davantage perdu prise avec le réel que dans son incapacité à comprendre et à respecter les vocations séculières, c'est-à-dire votre travail dans le monde. Elle, c'est-à-dire l'Église, a permis que le travail et la religion deviennent des départements séparés. Et elle s'étonne de constater que, de ce fait pourtant, le travail séculier du monde est déterminé par des fins purement égoïstes ou destructrices, et que la majorité des travailleurs qualifiés sont devenus irreligieux, ou tout du moins peu intéressés par leur religion. Mais est-ce si étonnant que cela ? Et écoutez bien la question qu'elle pose maintenant. Comment quelqu'un peut-il continuer de s'intéresser à une religion qui semble se préoccuper si peu des 9/10 de sa vie ? N'est-ce pas une bonne question ? Comment quelqu'un peut-il continuer de s'intéresser à une religion, à une foi, comme la foi chrétienne, qui semble se préoccuper si peu des 9/10 de sa vie ? Et n'est-ce pas là ce que vous ressentez parfois en venant à l'église ? Votre lieu de travail, c'est là où vous passez le plus clair de votre temps, que ce soit au bureau, à l'usine, au magasin, peu importe. Alors, peut-être que vous n'y passez pas le 9/10 de votre temps, je vous l'accorde. En fait, le sociologue Jean Viard explique qu'entre l'allongement des études et puis une longévité toujours plus grande, on ne passe en moyenne plus que 12% de notre vie au travail. À titre de comparaison, en 1950, on y consacrait 40% de notre existence et 70% au début du siècle. Donc on est loin des 9/10 dont Sayers parle, mais même si la part réelle que le travail occupe dans notre vie a fortement diminué au cours du XXe siècle, le travail occupe une place toujours plus grande dans nos vies. Or, n'avez-vous pas l'impression que, paradoxalement, la Bible semble n'avoir parfois rien à dire sur le sujet, quand vous venez le dimanche à l'église ? Comme si votre travail n'était pas important pour Dieu, ou peut-être pire, comme si Dieu n'était pas important dans votre travail. Je crois que, malheureusement, que Dorothy Sayers pose un diagnostic assez exact sur l'église, même aujourd'hui. L'église a permis que le travail et la religion, ou la foi, deviennent des départements séparés. Et c'est extrêmement grave. Et c'est pourquoi j'aimerais vraiment attirer votre attention ce soir sur ce passage, et un passage biblique en particulier, Éphésiens chapitre 6, les versets 5 à 9, qu'on va lire en contexte, pour vous montrer que si Dieu se préoccupe des 9/10 de votre vie, bien sûr, et il a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Alors lisons ensemble ce passage. « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'Esprit, vous entretenant par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et célébrant le Seigneur de tout votre cœur, rendant toujours grâce pour tout à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Marie, aimez chacun votre femme comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Et vous, parents, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les avertissant selon le Seigneur. » Puis voilà le passage qui nous intéresse. « Esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme au Christ. Et cela non seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des esclaves de Christ, qui font de toute leur âme la volonté de Dieu. » Servez-les de bon gré, comme si vous serviez le Seigneur et non les hommes, sachant que chacun, esclave ou libre, recueillera du Seigneur selon le bien qu'il aura fait. Quant à vous, maîtres, agissez de même à l'égard de vos serviteurs. Abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître est le vôtre, est dans les cieux, et que devant lui, il n'y a pas de considération de personne. Voilà donc ces versets qui correspondent à ce qu'on appelle un code domestique. Alors, ce n'est pas du tout unique à la Bible. Les codes domestiques, c'était fréquent dans l'Antiquité d'écrire de tels codes pour enseigner aux membres de la maisonnée comment se comporter. Donc, les femmes, leurs maris, les enfants, les parents, les esclaves et leurs maîtres. Et je ne vais pas répondre à toutes les questions que ce passage soulève, comme en particulier la question de l'esclavage, si ce n'est pour répondre à l'objection que vous pourriez avoir que ce texte s'adresse aux esclaves et à leurs maîtres, et pas aux employés et aux employeurs d'aujourd'hui. Et c'est vrai, ce n'est pas du tout, heureusement, le même type de relation. Seulement, je dirais simplement ceci. Si, comme on va le voir, Paul dit aux propriétaires d'esclaves, qu'ils ne doivent pas menacer leurs esclaves, mais les respecter, combien plus ça doit être vrai des employeurs aujourd'hui. Et si, comme on va le voir aussi, Paul dit aux esclaves, qu'ils peuvent trouver un sens à leur travail, combien plus ça doit être vrai des employés aujourd'hui. Donc vous voyez, les principes restent les mêmes en fait. Ils sont juste accentués. Et selon ces versets, il y a quatre choses que l'Évangile nous donne pour notre vie professionnelle. Premièrement, l'Évangile nous donne une nouvelle perspective. Et là, plus que le contenu, c'est le contexte de ces versets qui nous intéresse pour l'instant. Le contexte. Parce qu'en Éphésiens 5, verset 18, vous voyez, Paul commence la dernière section de son épître aux Éphésiens par ces mots. « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'Esprit. » À quoi cela ressemble-t-il d'être rempli de l'Esprit? Quelles sont les marques visibles d'une vie vécue par l'Esprit? Qu'est-ce que vous diriez? Eh bien, c'est ce que Paul explique en fait dans la suite. Il dit « Mais soyez remplis de l'Esprit, vous entretenant par des cantiques, chantant le Seigneur de tout votre cœur, rendant toujours grâce à Dieu pour tout. » Et verset 21, regardez, est-ce que vous voyez quelle est la dernière marque ici d'une vie vécue par l'Esprit, c'est-à-dire d'une vie spirituelle? Quelle est la dernière marque? Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. En bref, lorsque l'Esprit de Dieu nous contrôle, il met un chant dans notre cœur, il nous remplit de reconnaissance envers Dieu, et quelle est la dernière marque d'une vie spirituelle? Il nous aide à vivre nos relations les uns avec les autres, que ce soit en couple, femme, mari, rappelez-vous, en famille, parents, enfants, ou au travail. Chapitre 6, versets 5 à 9, où il est question des esclaves et de leurs maîtres. Pourquoi est-ce que je vous montre tout ça? C'est un peu long. Simplement pour souligner ceci. Toute la vie du chrétien est spirituelle. Toute la vie du chrétien est spirituelle. Chaque aspect de notre vie, jusqu'aux tâches les plus banales du quotidien, passer l'aspirateur, changer les couches, aller au travail, chaque aspect de notre vie peut et devrait être vécu comme un culte spirituel qu'on rend à Dieu. Pourquoi est-ce absolument crucial de comprendre ça? Eh bien parce que si on ne comprend pas que nos activités quotidiennes même sont spirituelles, on se condamne à vivre une sorte de double vie, où on ne fait pas le lien entre ce qu'on vit le dimanche matin et ce qu'on fait le reste de la semaine. Et il y a, franchement, là, j'en suis convaincu, dans les milieux évangéliques, une vision du monde très dualiste, on en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire où on fait une séparation très marquée entre le sacré, le spirituel d'un côté, et le profane, le séculier de l'autre. Entre le dimanche et les activités de l'Église, et éventuellement pendant la semaine, ma vie de piété personnelle, ma lecture de la Bible, ma prière, etc. Voilà, ces activités, ça c'est les activités, voilà ce qui est spirituel, c'est la bonne façon de servir Dieu dans ces activités-là, qu'on sépare du reste de la vie des activités quotidiennes de la semaine, que vous connaissez bien, quand vous amenez vos enfants à l'école, que vous participez à une réunion au travail, ou que vous faites le ménage chez vous, peu importe. Ce dualisme, cette façon de séparer la foi du reste de la vie, n'est pas biblique. Et ça engendre, à mon avis, deux erreurs opposées chez beaucoup de chrétiens, deux distorsions. Une distorsion plus catholique, entre guillemets, et une distorsion plus protestante. Alors prenons la distorsion catholique d'abord. Et vous allez voir pourquoi c'est en fait extrêmement pratique ce que je suis en train de dire. Ça peut paraître un peu abstrait, mais c'est très pratique. Prenons la distorsion catholique, qui est une forme spiritualisante de dualisme. C'est-à-dire on élève le spirituel au détriment du séculier. Au Moyen-Âge, au sein de l'Église catholique romaine, vous aviez un peu deux castes. Vous aviez les religieux, qui faisaient vœu de pauvreté, de chasteté, d'obéissance. Ça, c'était la première voie que vous pouviez suivre, ce qu'on appelle la vie parfaite, entre guillemets, des religieux, c'est-à-dire sacrée, spirituelle. Et puis, vous aviez, franchement, ce qu'on pourrait dire, la voie de garage pour tous les autres, ce qu'on appelait la vie permise, entre guillemets, du peuple, profane, séculière. Et en fait, aujourd'hui encore, vous voyez, dans le jargon catholique et même dans les églises protestantes évangéliques, lorsqu'on dit de quelqu'un qu'il a répondu à l'appel de Dieu, ou qu'il a une vocation, ou qu'il est dans le ministère, on pense à qui généralement ? Aux pasteurs, aux moines, aux prêtres, on pense aux religieux. Comme si c'était les religieux uniquement qui ont un appel, une vocation de la part de Dieu. Ce qui est faux, bien sûr. Mais donc vous voyez, ce que ça produisait au Moyen-Âge, c'était une sorte de double standard de foi, où on s'attendait à ce que ceux qui étaient à plein temps pour l'Église, les prêtres, les moines, etc., on s'attendait à ce qu'eux soient spirituels toute la semaine, mais les autres, bah, ils vivaient leur foi le dimanche matin, sans que ça ait nécessairement d'impact sur leur semaine de travail. Réfléchissez, si je pense que mon travail n'est pas spirituel et qu'il n'est donc pas important aux yeux de Dieu, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais accomplir mon travail selon les mêmes valeurs que n'importe qui d'autre. Peu importe, puisque Dieu s'en fiche. Or, toute notre vie est importante aux yeux de Dieu, parce que toute notre vie est spirituelle. Et c'est ce que les réformateurs ont redécouvert. Calvin, Luther, etc. Tout chrétien doit considérer son travail comme une vocation, c'est-à-dire un appel, une mission que Dieu nous confie. Martin Luther, par exemple, écrit ceci, écoutez bien. Et quand vous écoutez ce qu'il dit, rappelez-vous qu'il était moine, lui. Hein, il était moine augustinien, à la base. Il dit ceci. « Le travail des moines ou des prêtres, ou des pasteurs, aussi saint et difficile soit-il, ne diffère en rien aux yeux de Dieu du travail d'un paysan dans son champ ou de celui d'une femme accomplissant ses tâches ménagères. Mais tout travail est évalué devant Dieu en vertu de la foi seule. » En fait, il va même plus loin. « En fait, les tâches domestiques d'un valet ou d'une servante sont souvent plus acceptables devant Dieu que ne le sont tous les jeûnes et les prières d'un moine ou d'un prêtre, parce que tel moine ou tel prêtre n'a pas la foi. » Et voilà comment il conclut. « Votre travail, » et là il vous parle à vous, qui travaillez dans le monde, « votre travail est une chose très sainte qui plaît à Dieu et par lequel il désire répandre sur vous ses bénédictions. Cet éloge du travail devrait être inscrit sur chacun de vos outils, sur votre front et sur vos visages en sueur, vous qui trimez dur. » Que dit Luther ? Il dit « Ne comprenez-vous pas. Ne comprenez-vous pas, vous qui travaillez en usine, en entreprise, à la maison, que vos activités quotidiennes même sont spirituelles et que donc votre travail séculier, entre guillemets, est tout aussi précieux et honore Dieu tout autant que n'importe quel ministère chrétien. » D'ailleurs, savez-vous ce que le mot « ministère » signifie, étymologiquement ? Quand on dit d'un pasteur, par exemple, qu'il est dans le ministère ou qu'il a été dans le ministère pendant 20 ans. « Ministère » vient de « ministerium » en latin, qui signifie quoi ? Un service. Un service. Et savez-vous quel mot de la langue française est tiré de « ministerium » ? Le mot « métier » est tiré du mot « ministerium ». N'est-ce pas intéressant ? Votre métier est un ministerium, un service que vous pouvez accomplir et rendre à Dieu et aux hommes. Et dans ce sens-là, vous voyez, nous sommes tous dans le ministère chrétien. Vous autant que moi, nous sommes tous dans le ministère chrétien à plein temps. Moi, en tant que pasteur, je suis dans le ministère chrétien à plein temps dans l'Église. Voilà ma vocation. Vous êtes appelés au ministère chrétien à plein temps dans le monde. Voilà votre vocation. Écoutez ce qu'en dit Jean Calvin encore. Il dit « Nous ne devons pas perdre de vue que dans tous les actes de notre vie, nous avons à nous souvenir de notre vocation. Chacun doit comprendre, il dit chacun, chacun doit comprendre pour ce qui le concerne que son poste est comme une mission que Dieu lui assigne. Nous recevrons de cela une vraie consolation. Pourquoi ? Parce qu'il dit « Toute œuvre, si méprisée, si basse soit-elle, brille devant Dieu et a beaucoup de prix, si du moins elle correspond à notre vocation. » C'est-à-dire, si du moins nous considérons notre travail comme une vocation, une mission à laquelle Dieu nous appelle pour le servir lui. Et déjà, vous voyez, Calvin nous met en garde contre une deuxième distorsion ici. On a parlé de la première distorsion, la distorsion catholique, entre guillemets. Prenons la deuxième, la distorsion protestante, qui est une forme, cette fois, on pourrait dire, sécularisante de dualisme. C'est-à-dire, on élève le séculier au détriment du spirituel. Après la Réforme, un glissement a eu lieu dans les milieux protestants, les milieux issus du puritanisme en particulier. Que s'est-il passé ? Eh bien, malgré les avertissements des réformateurs, comme quoi le travail n'a de valeur que, ou comme dit Calvin, si du moins il est accompli pour Dieu en réponse à son appel, malgré leurs avertissements, le travail est resté quelque chose de sacré, de noble, mais déconnecté de Dieu. Donc, par exemple, vous avez le président américain John Coolidge, qui correspond totalement à ce problème-là, qui était président à la fin du 19e siècle, qui dit ceci. Il dit « L'homme qui construit une usine construit un temple, et l'homme qui y travaille prie. » Et vous voyez, on a un exemple typique là de cette éthique protestante du travail, dont certains disent qu'elle est à l'origine du capitalisme, où le travail prend la place de Dieu, en fait, où le travail et la réussite professionnelle sont devenus des buts en soi. Et c'est problématique. Pourquoi ? Mais parce qu'il n'y a pas d'appel sans quelqu'un qui vous appelle. C'est-à-dire, votre travail quotidien ne peut être un appel, une vocation, que s'il est pensé et vécu comme un appel que Dieu vous adresse, comme une mission qu'il vous donne. Mais est-ce que vous voyez alors quels sont les deux pièges dans lesquels nous pouvons tomber en tant que chrétiens ? D'une part, si vous élevez le spirituel au détriment du séculier, qu'est-ce qui va se passer ? Vous risquez de voir votre travail comme un gagne-pain, rien de plus. Un mal nécessaire parce qu'il faut bien mettre du pain sur la table. Mais mon travail n'est pas important aux yeux de Dieu, peu importe, il s'en fiche. D'autre part, si vous élevez le séculier au détriment du spirituel, qu'est-ce qui va se passer ? Vous risquez de voir votre travail comme votre raison d'être. Or, votre travail n'est pas votre raison d'être. Dieu est la raison d'être de votre travail. C'est ce qu'on a vu dans le premier message. C'est lui qui donne du sens à votre travail. Alors, comment éviter ces deux écueils ? Comment éviter de voir votre travail comme un simple gagne-pain ou à l'inverse, comme une raison d'être ? Première chose, souvenez-vous que toute la vie du chrétien est spirituelle. C'est cette perspective-là que nous donne l'Évangile et qui change tout, vraiment, quand on la comprend réellement. Laissez-moi vous raconter juste l'histoire de William Wilberforce. On parlait de politique tout à l'heure. Juste pour illustrer mon propos, William Wilberforce a vécu à la fin du 18e, début du 19e siècle. C'était un politicien anglais, chrétien, qui est à l'origine de l'abolition de l'esclavage. Peut-être que vous le connaissez pour ça, c'est généralement ce qu'on sait de lui. Ce que les gens ne savent pas, en revanche, c'est que quand Wilberforce s'est converti en 1785, à l'âge de 25 ans, sa première réaction a été de faire quoi ? Sa première réaction a été d'abandonner la politique pour entrer dans le ministère pastoral. Pourquoi ? Mais parce qu'il se disait « J'ai envie d'être utile pour le Seigneur, je veux faire quelque chose, je veux me rendre utile pour le Seigneur. » Et il pensait, comme des milliers de personnes après lui et aujourd'hui encore, que les affaires spirituelles étaient beaucoup plus importantes que les affaires séculières. Il était tout à fait victime, si vous voulez, de cette première distorsion dont on a parlé. Heureusement, John Newton, que vous connaissez certainement, John Newton était ce marchand d'esclaves qui s'est converti et qui a écrit le cantique « Amazing Grace ». John Newton était son ami, et il a persuadé Wilberforce que ce que Dieu voulait, c'est qu'il reste en politique plutôt que de devenir pasteur. Voilà ce qu'il lui a écrit dans une lettre. Il lui dit, vous n'êtes pas le représentant du comté d'York, parce que c'est de là que Wilberforce venait. Il lui a dit, vous êtes le représentant du Seigneur dans un lieu où beaucoup de gens ne le connaissent pas. Nous espérons et croyons que Dieu vous a suscité pour le bien de la nation. Et après beaucoup de prières et de réflexions, Wilberforce a conclu que Newton avait raison, que Dieu l'appelait à être un politicien chrétien pour défendre la cause des esclaves. Et en 1788, dans son journal, Wilberforce écrit ceci. Il dit « Telle est ma course. Ma tâche dans le monde est publique et je dois me mêler à l'assemblée des hommes ou quitter le poste que la Providence m'a assigné. » Vous voyez ce qu'il a compris ? Nous avons besoin de politiciens chrétiens, mais aussi d'enseignants, d'ingénieurs, d'artistes, d'infirmiers, de comptables chrétiens qui ont compris ce que Wilberforce avait compris, à savoir que toute notre vie est importante aux yeux de Dieu et que Dieu est important dans toute notre vie, que ça change, ça fait quelque chose d'être chrétien au travail, que ça fait une différence. Pourquoi ? Parce que toute notre vie et spirituel. Voilà la nouvelle perspective que nous donne l'Évangile, tellement importante. Les implications sont immenses, en fait. Mais deuxièmement, l'Évangile nous donne aussi un nouveau public. Un nouveau public. La vérité centrale de ce passage est absolument vitale, je crois. Quelle est cette vérité ? Elle se trouve au verset 7, regardez. Et bien comprise, cette vérité doit nous permettre d'éviter les deux erreurs dont on vient de parler. Pourquoi ? Parce que d'une part, vous allez voir, cette vérité anoblit le travail, pour ceux qui risquent de le considérer comme une corvée, un simple gagne-pain. Est-ce que c'est peut-être comme ça que vous le vivez aujourd'hui ? Une corvée ? Et vous vous levez le matin, vous avez de la peine à vous lever, à aller au travail, vous y allez en traînant les pieds et tout vous semble pénible et inutile. Cette vérité, vous allez voir, anoblit le travail et en même temps, elle le désacralise pour ceux qui risquent d'y trouver leur identité, leur raison d'être. Est-ce comme ça que vous le vivez en ce moment ? Et vous allez vous coucher le soir avec une boule au ventre parce que vous avez peur de ce qui vous attend le lendemain, vous avez peur de ne pas être à la hauteur. Cette vérité anoblit le travail et le désacralise. Quelle est-elle ? Verset 7, regardez. Paul dit « Servez-les », il s'adresse aux esclaves, « Servez vos maîtres de bon gré, comme si vous serviez le Seigneur et non les hommes. » Autrement dit, « Travaillez pour le Seigneur et non pour les hommes. » Que dit Paul ? Paul dit « Nous travaillons tous, toujours, pour un public. » Consciemment ou non, peu importe, nous travaillons tous, toujours, pour un public. Certains cherchent à plaire à leurs parents. Est-ce que vraiment aucun parmi nous n'a choisi de faire telle ou telle étude ou tel travail pour plaire à ses parents ? D'autres cherchent à gagner l'admiration de leurs professeurs. Si vous êtes étudiant, vous devez connaître ça. D'autres encore cherchent à impressionner leurs collègues ou à gagner la faveur de leurs supérieurs. Et beaucoup, si ce n'est tous, nous faisons ce que nous faisons dans le seul but d'être à la hauteur de nos propres attentes au moins. Nous travaillons tous pour un public, les autres, nous-mêmes. Pourquoi en est-il ainsi ? Eh bien parce que les paramètres par défaut du cœur humain... Quand vous vous réveillez le matin, et que, comme un ordinateur, si vous voulez, après avoir passé toute la nuit en veille, quels sont les paramètres par défaut de votre cœur ? C'est-à-dire, quel est le mode selon lequel votre cœur va fonctionner tout au long de la journée si vous n'y prenez pas garde ? Le paramètre par défaut du cœur humain, c'est d'essayer de bâtir son identité autour de quelque chose d'autre que Dieu. La réussite professionnelle, le succès dans les études, le succès dans les affaires, etc. Demandez-vous, pourquoi tant de personnes sont-elles axées sur leur carrière ? Mais oui, mais parce que si je peux voir dans le regard des hommes, des autres, mes collègues, mes professeurs, si je peux voir dans leur regard de l'admiration, voire de l'envie peut-être, parce que j'ai fait ceci ou ça, j'ai eu telle promotion ou tel diplôme, alors voilà ce qui donne un sens à ma vie. Voilà ce qui justifie mon existence. Voilà ce qui me donne une légitimité à mes yeux, une identité. Et que dit Paul ? Paul dit « Ces publics-là ne sont pas les bons. Si vous travaillez pour les hommes, pour gagner leur approbation, leur admiration, ça va vous asservir. Pourquoi ? Et parce que vous n'aurez jamais assez, jamais fait assez. Il faudra toujours faire plus, il faudra toujours monter plus haut. Et quand bien même vous seriez arrivé tout en haut, vous serez toujours asservi. Pourquoi ? Parce que vous aurez peur de tomber. Vous aurez peur que votre succès se transforme en échec. Ces publics-là ne sont pas les bons. Travaillez pour le Seigneur, non pour les hommes. Il est le seul public. Il est le seul maître qui ne vous asservira pas. Alors j'aimerais vous proposer un petit test très pratique. Vous pouvez prendre avec vous à la maison puis le faire régulièrement. Je le fais pour moi. Pour savoir si vous travaillez pour le Seigneur ou pour les hommes. C'est-à-dire pour savoir si vous travaillez plus conscient de son regard à lui que du regard des hommes. Voilà le test. Comment réagissez-vous face à la critique ? Voilà que vous avez travaillé tard pour rendre un rapport à votre chef, vous lui avez rendu ce travail, vous êtes sur le chemin pour rentrer à la maison, vous n'êtes même pas encore arrivé que votre smartphone sonne, email qui vous dit que le lendemain vous pouvez recommencer à zéro parce que c'était mauvais. Ou voilà un projet, vous avez fait une boulette et il se trouve que c'est un de vos collègues qui ramasse tout et vous voyez dans son regard que ça l'énerve, qu'il est critique. Qu'est-ce que vous faites ? Comment est-ce que vous réagissez ? Est-ce que vous êtes dévasté et vous n'en dormez plus le soir et vous repassez dans vos têtes les événements de la journée, ce que vous auriez pu faire, ce que vous auriez dû faire, ce que vous n'avez pas fait, et vous dites « Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils doivent penser de moi au bureau maintenant ?» Est-ce que vous êtes dévasté ou à l'inverse, est-ce que vous êtes blasé ? Parce que vous dites « Peu importe ce qu'ils pensent, moi je sais ce que je vois. Peu importe ce que les autres pensent, ils n'en savent rien, moi je sais mieux, je sais ce que je vois. » Autrement dit, est-ce que vous êtes dévasté par la critique ou est-ce que vous ne l'êtes pas parce que vous ne l'écoutez pas ? Les deux sont faux. Les deux sont faux. Dans les deux cas, ce que ça indique, c'est que vous accordez encore beaucoup trop d'importance à ce que les hommes pensent. Seulement si vous travaillez pour le Seigneur et non pour les hommes, serez-vous capable de recevoir une critique sans être dévasté ? Seulement si vous travaillez pour le Seigneur et non pour les hommes, serez-vous capable d'écouter la critique et de la voir comme une opportunité de changer ? Vous voyez ce que ça change d'avoir un nouveau public ? C'est extrêmement concret, c'est très pratique. Mais on peut aller encore plus loin. Parce que regardez ce que Paul dit exactement au verset 5, c'est très intéressant. Il dit « Esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres avec crainte et tremblement. » Et verset 6, « Et cela non seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des esclaves de Christ. » Laissez-moi vous montrer comme c'est radical ici, comme Paul relativise tout patron humain, toute carrière humaine. Il dit aux esclaves, en fait, « Je veux que vous ayez du respect et que vous fassiez du bon travail pour votre maître, mais je veux que jamais, jamais vous ne pensiez qu'il est votre vrai maître. » Il n'est pas votre vrai maître, il est votre maître terrestre. Pourquoi est-ce si radical ? Voilà pourquoi. Pendant mes années d'études, à quelques occasions pendant l'été, j'ai travaillé en usine pour me faire un peu d'argent de poche. Vous l'avez peut-être fait vous aussi, peut-être que vos enfants le font. Et si vous voulez, pour le dire autrement, j'ai quitté mon université et mes livres qui devaient me préparer à entrer dans le monde des cols blancs pour entrer dans le monde des cols bleus. Et c'était bien pour moi, en fait, parce que j'ai réalisé quelque chose. J'ai réalisé que le problème pour les cols blancs, c'est quoi ? C'est le surmenage. Si vous êtes ingénieur ou cadre, vous le savez bien, tout le monde est ambitieux, axé sur sa carrière, tout le monde veut percer, tout le monde veut réussir, tout le monde est sous une pression énorme, travail, travail, travail. Pourquoi ? Mais parce que c'est là notre identité, on a fait des longues études, on veut réussir. Le problème pour les cols bleus, c'est la nonchalance. Et voilà ce que je veux dire par là. C'est pas une critique du tout. J'oublierai jamais cette usine en Allemagne où j'ai travaillé quelques semaines, trois semaines environ, avec deux ou trois autres étudiants. Et je me souviens, on est arrivé le premier jour, le superviseur nous a pris, nous a conduit vers une chaîne de production où vous aviez des pièces de tuyauterie bleue qui avançaient sur un tapis roulant et on devait les poncer. Il fallait faire un maximum de pièces par jour. Et nous, on venait d'arriver, tout jeune, tout motivé, et on allait à fond, quoi. On faisait les pièces les unes après les autres, jusqu'à ce qu'un des employés, ceux qui travaillaient là à l'année, sur des années même, est venu nous voir. Et il nous a dit, vous savez les gars, si vous donnez l'impression au superviseur que vous pouvez abattre autant de travail en une journée, ça va rendre la vie très compliquée pour ceux comme moi qui vont passer les 30 prochaines années ici. Et il avait raison. Je veux dire, moi, j'aurais dit exactement la même chose si je n'avais pas travaillé 33 semaines, mais 30 ans. C'est totalement compréhensible. Mais voilà quel est le problème que Paul dénonce. Les cols bleus, c'est une grosse généralisation, mais souvent, et c'est compréhensible, n'aiment pas le travail qu'ils font. Pourquoi ? Parce que c'est répétitif, c'est salissant, c'est fatigant. Je vous ai lu un témoignage tout à l'heure, dans le premier message. Et le problème, c'est quoi ? C'est qu'ils ne font que ce qu'on leur demande de faire, pas plus. Ils ne travaillent que quand le regard du superviseur est sur eux. Et voilà Paul qui arrive et qui dit « Je veux que vous travailliez pour Christ. Il est votre patron. Il est le vrai superviseur. » Et ça signifie deux choses. D'une part, ça protège du surmenage. Parce que regardez ce qui est dit au verset 8. Il dit « Travaillez pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que chacun recueillera du Seigneur selon le bien qu'il aura fait. » Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « Si vous faites votre travail, vous vous donnez de la peine, mais votre chef ne le remarque pas, ou vous ne faites peut-être pas l'avance que vous auriez voulu faire, ou vous n'obtenez pas la promotion que vous vouliez, ou vous n'avez pas de réussite dans le projet, oh là là ! Peu importe. Ce qui compte, c'est ce que Jésus pense. » Il est le seul chef qui sera toujours là dans un million d'années. Tous les autres auront disparu. Tous les professeurs auront disparu. Tous les chefs auront disparu. Peu importe ce qu'il pense. Ce qui importe, c'est ce que Jésus pense. Alors, faites de votre mieux et détendez-vous. Si vous êtes en particulier dans ce genre de travaux, col blanc. Et d'autre part, qu'en est-il de la nonchalance ? Qu'en est-il de ceux qui détestent leur métier et qui font le strict nécessaire avec nonchalance? Qu'est-ce que Paul leur dit à eux? Paul leur dit, votre superviseur vous regarde tout le temps. Il a toujours les yeux fixés sur vous. Et c'est pourquoi vous devez toujours faire du bon travail. Vous devez toujours travailler de toutes vos forces. Vous voyez, nous n'avons qu'un seul public, notre Seigneur qui nous aime, et ça nous donne à la fois le sens des responsabilités et la joie dans le travail. Ça change tout, travailler pour lui. C'est le deuxième point. On a un nouveau public. Troisièmement, l'Évangile nous donne aussi de nouveaux principes. Ces deux premiers points, une fois qu'ils sont bien compris, ont plusieurs implications pratiques. Et je vous en donne trois. D'accord ? Trois principes qui ressortent de ces versets. Ça devient un tout petit peu plus pratique. Premièrement, travailler avec respect. Avec respect. Puisque Paul écrit au verset 5, « Esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres avec crainte et tremblement. » Ou, selon une version qui, selon moi, rend mieux la force du propos, « Travaillez avec respect et humblement. » Mais Paul ne s'arrête pas là. Il dit quelque chose de complètement révolutionnaire. Parce que déjà, remarquez qu'il s'adresse aux esclaves. Il leur parle à eux. Ce qu'aucun auteur de l'Antiquité n'aurait fait. Jamais. Je vous ai dit, ces codes domestiques, ce n'est pas propre à la Bible, vous en trouvez partout. Jamais ces auteurs de l'Antiquité ne s'adressent aux esclaves. Paul, lui, s'adresse aux esclaves comme à des gens respectables. En fait, il leur parle plus qu'aux maîtres. Et en fait, il s'adresse à eux en premier, avant de s'adresser aux maîtres. Mais surtout, regardez ce qu'il dit aux maîtres, c'est là que c'est révolutionnaire. Verset 9. Quant à vous, maître, agissez de même à l'égard de vos serviteurs. De même ? Comment ça, de même ? Et vous regardez les versets qui précèdent et vous réalisez que ce que Paul est en train de dire, c'est que les chefs, les maîtres, doivent traiter leurs serviteurs avec respect et humblement. Respectez-les. Le grand philosophe romain Sénèque, qui vivait en fait du temps de Paul, c'était un contemporain, il avait cet adage. Et il disait « Autant d'esclaves, autant d'ennemis. » La force, c'est tout ce qu'ils comprennent. C'est des ennemis, traitez-les comme des ennemis. La force, c'est comme ça qu'il faut se faire respecter. Paul, lui, nous dit « Si tu es un maître et que tu es chrétien, ne t'avise même pas d'y penser. » Pas de menace. Et il ajoute, c'est très fort ce qu'il ajoute, « Sachant que tu es un esclave toi-même et qu'au regard de Dieu, t'es leur égal. » C'est ça le sens du verset 9. Il dit « Sachant que leur maître est le vôtre, et dans les cieux. Vous êtes esclaves, vous aussi, de Christ. Et que devant lui, il n'y a pas de considération de personne. Que dit Paul ? Il dit, ne vous avisez pas de penser que parce que vous êtes un cadre hautement qualifié, vous êtes meilleur que le concierge en bas de votre immeuble. Que, d'une certaine manière, vous pouvez le traiter avec moins de dignité. Certainement pas. R.C. Sproul, qui était un grand auteur, un conférencier chrétien assez connu, il est mort il y a 2 ans seulement, a écrit un livre où il parle justement de cette question de la dignité de tout travail et de tout travailleur. Et il explique s'être rendu un jour dans un hôpital pour visiter un ami qui était hospitalisé. Et il a réalisé, alors qu'il attendait là dans le couloir depuis un long moment, il a réalisé qu'il y avait un système de caste dans l'hôpital. C'est sans doute vrai dans d'autres milieux, j'attaque absolument pas le milieu hospitalier ici, mais si vous êtes dans le milieu médical, vous devez connaître ça, non ? Il disait qu'il y avait les médecins tout en haut, et puis les infirmiers, et puis toutes sortes d'auxiliaires médicaux, et puis les secrétaires, et puis tout en bas de l'échelle, le personnel d'entretien. Et il dit qu'il a réalisé que de toutes sortes de manières, les personnes des différentes castes, entre guillemets, faisaient savoir à ceux qui étaient en dessous d'eux qu'ils étaient en dessous d'eux. Donc par exemple, il dit à un moment, il a vu une infirmière qui parlait avec des médecins, et cette infirmière était toute prévenante, toute attentive, parce que c'était des médecins, alors il fallait faire gaffe. Et une seconde après, alors qu'elle partait, dans le couloir, le gars de l'entretien était là, et il marchait dans sa direction avec son chariot et ses balais, et il était tout content, et il lui a souri, et elle a regardé ailleurs, elle est passée tout droit, comme pour dire, non, moi, je ne vais pas te parler, on n'est pas du tout dans le même tableau. Je ne te connais même pas. Et R.C. Sproul a dit, vraiment, il dit, mais j'y crois pas. On est au 21e siècle. Il n'y a plus d'esclaves et de maîtres, il n'y a plus de système de caste. Non, ça n'existe plus, ça. Oh non. Oh non, parce que le cœur humain, c'est pas comme ça qu'il fonctionne. Le cœur humain est plein d'orgueil, toujours à essayer d'avoir une longueur d'avance sur les autres. À moins que l'évangile de grâce ne vous purge de ça. Avez-vous pris à cœur le fait que tout travail a une dignité ? Travaillez avec respect, c'est le premier principe. Travaillez avec intégrité ensuite. Puisque Paul ajoute au verset 5, regardez, « Esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, avec un cœur simple, intègre. » C'est-à-dire, eh bien, l'intégrité, déjà, est synonyme d'honnêteté, tout simplement. Donc, ne pas tromper sur la marchandise en demandant un prix excessif, tenir ses promesses en respectant les délais auxquels on s'est engagé, ne pas voler l'entreprise en utilisant mal son temps, etc. L'honnêteté. Mais l'intégrité est aussi synonyme de transparence. Donc, avouer ses erreurs auprès de la hiérarchie, donner des informations complètes pour que le client sache ce qu'il achète ou sache à quoi il s'engage, etc. Honnêteté, transparence, mais surtout, l'intégrité est synonyme de droiture. Et c'est un point extrêmement important, en particulier aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que le marché du travail est devenu hautement concurrentiel. Donc par exemple, vous voilà dans la salle d'attente d'une grande entreprise qui recrute dans votre domaine, et vous êtes assis à côté d'une dizaine de personnes qui ont postulé pour le même poste, qui sont en concurrence pour le même poste, vous allez devoir vous vendre pour obtenir ce poste, n'est-ce pas ? Et puis ça ne s'arrête pas là, parce que imaginez que vous obteniez le poste. Vous allez être en concurrence avec vos collègues pour une promotion, vous allez être en concurrence avec d'autres entreprises sur un projet. Quelle est l'attitude chrétienne face à la concurrence, ou à l'égard de la compétition dans le milieu du travail ? C'est une question vraiment importante, parce que Paul dit ailleurs, en Philippiens 2, « Ne faites rien par rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant, au contraire, considérez les autres comme plus importants que vous-même. » Alors qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce que ça signifie qu'en tant que chrétien, nous devons courber les chines et s'effacer pour laisser les autres nous doubler, piquer notre poste, piquer notre promotion, piquer notre projet ? Non. Ce que Dieu attend de nous, c'est de la simplicité de cœur, de la droiture. Autrement dit, ce que la Bible condamne, ce n'est pas l'esprit de compétition. La compétition, c'est même assez bien, en fait, dans toutes sortes de domaines, sportifs, scolaires, au travail. Pourquoi ? Parce que la compétition nous pousse à donner le meilleur. C'est bien. Ce que la Bible condamne, ce n'est pas l'esprit de compétition, c'est l'esprit de rivalité, où tous les coups sont permis et où le seul moyen de m'élever moi, c'est d'écraser les autres. Quelle est la différence ? Quelle est la différence entre la compétition faite dans l'esprit du monde et la compétition faite dans un esprit qui honore Dieu ? Le monde vous dit « Sois le meilleur, sois le meilleur », quitte à descendre la concurrence en leur mettant des bâtons dans les roues. « Sois le meilleur ». Dieu vous dit « donne le meilleur de toi-même ». Gagne la course parce que tu cours plus vite que tes adversaires, pas parce que tu les as tous fait trébucher en route. Et en fait, idéalement, gagne la course, mais tire tous les autres avec toi pour qu'ils courent plus vite. Le but n'est pas d'être le meilleur, mais de donner le meilleur. Travailler avec intégrité. Et ça m'amène au troisième et dernier principe. Travailler avec excellence. Puisque Paul dit au verset 6, regardez, que nous devons travailler de toute notre âme, ou de bon cœur. Ce que Dieu veut, c'est que nous fassions notre travail du mieux possible, avec excellence. Dorothy Sayers, que j'ai cité en introduction, ajoute ceci dans son article, et c'est vraiment intéressant à écouter. Elle dit « Généralement, l'Église se contentera d'exhorter un menuisier compétent et intelligent à ne pas abuser d'alcool, à ne pas mener une vie de désordre durant son temps libre et à venir au culte le dimanche matin. Mais voilà ce qu'elle devrait lui dire. La première chose que ta foi demande, c'est que tu fabriques de belles tables. » Vous voyez ce qu'elle dit ? Vivre la foi au travail ne consiste pas uniquement à être honnête, à ne pas tomber dans l'adultère avec un ou une collègue. C'est pas moins que ça, évidemment, mais c'est beaucoup plus que ça. Et c'est même plus encore, vous voyez, que de témoigner de l'Évangile ou d'organiser une étude biblique au bureau. Tout ça, c'est très bien. Hein, et prions vraiment que Dieu nous ouvre des portes pour annoncer l'Évangile au travail, évidemment. Mais il s'agit plutôt de réfléchir de façon concrète à ce qu'implique ce principe, travail pour le Seigneur et non pour les hommes. Donc imaginez que la personne que vous avez admirée toute votre vie, que vous n'aviez jamais espéré rencontrer, vienne un jour vous rendre visite sur votre lieu de travail. Mettons, vous êtes avocat et voilà Maître Dupont-Moretti qui vient écouter votre plaidoirie. Et vous l'admirez énormément. Comment est-ce que vous allez agir ? Est-ce que vous connaissez la réputation de cette personne, vous la tenez en haute estime, est-ce que vous serez dissipé ? Est-ce que vous serez négligent dans ce que vous faites ? Non, évidemment. Vous allez tout faire pour l'éblouir de toute votre âme. Eh bien, rappelez-vous lundi, quand vous irez au travail, que Dieu est en visite, comme tous les jours, qu'il est là, comment allez-vous travailler ? Vous êtes enseignant, la première chose que Dieu vous demande, c'est de faire de bons cours qui passionnent vos élèves. Vous êtes programmateur, la première chose que Dieu vous demande, c'est de faire des beaux algorithmes. Il paraît que ça existe. Vous êtes violoniste, la première chose que Dieu vous demande, c'est de faire de belles performances musicales qui inspirent votre public. Vous êtes maraîcher, la première chose que Dieu vous demande, c'est d'avoir le plus bel étalage de fruits et légumes. Cherchez l'excellence dans ce que vous faites. Voilà pour ces principes un peu plus concret que ce passage nous invite à tirer. J'ai un dernier point qui est le plus bref, le plus court, mais qui est très important. L'Évangile nous donne aussi une nouvelle passion. On a vu que Dieu se préoccupe, bien sûr, des 9/10 de votre vie. Tout ce que nous faisons est important aux yeux de Dieu, et Dieu est important dans tout ce que nous faisons. On a vu que vous devez travailler pour lui et pas pour les hommes, ce qui signifie qu'il faut travailler avec respect, intégrité et excellence. C'est tout un programme. Okay. Qu'est-ce qui va être votre moteur, votre motivation pour faire tout ça? Où allez-vous puiser la passion pour travailler à la gloire de Dieu? Je vais vous le dire. C'est en vous rappelant que tout effort pour le bien, même le plus modeste, accompli en réponse à l'appel de Dieu, a une valeur éternelle. Il a une valeur éternelle. Tolkien, qui était bien sûr l'auteur du Seigneur des Anneaux, bien connu, il était chrétien, je ne sais pas si vous le savez, mais c'était un professeur et un artiste chrétien. Pendant la Seconde Guerre mondiale, alors qu'il travaillait sur son manuscrit du Seigneur des Anneaux, depuis de nombreuses années déjà, il s'est retrouvé bloqué à un moment. Il arrivait au point où le récit comportait, si vous avez vu le film, vous imaginez, le récit comportait plein d'intrigues et ça devenait difficile d'apporter une issue satisfaisante à chacune des intrigues. Et en plus, dans le contexte de la guerre, Tolkien savait que la mort pouvait frapper à n'importe quel moment. Et il a commencé à désespérer de pouvoir terminer un jour ce qu'il considérait comme son chef-d'œuvre, en fait. Et alors qu'il était dans cette impasse, une nuit, enfin un matin plutôt, il s'est réveillé avec une histoire en tête. Il l'a écrite et il l'a intitulée « Feuille de Nigel ». Je vous encourage à la lire si vous avez l'occasion. C'est l'histoire d'un peintre, Nigel, qui est un peu l'alter ego de Tolkien dans l'histoire, très perfectionniste. Nigel est toujours insatisfait de ses tableaux, d'accord ? Notamment, il y a un tableau énorme qui l'obsède. Il a en tête l'image d'un arbre immense qu'il a envie de peindre sur sa toile et sur lequel il travaille depuis longtemps. Mais ça n'avance pas parce qu'il est trop perfectionniste, il est distrait. Et puis, le temps est court. Nigel sait qu'il doit partir pour un long voyage, ce qui, dans l'histoire, est une image de la mort, en fait. Il doit bientôt partir. Et effectivement, au moment où on vient le chercher pour ce long voyage, Nigel n'a réussi à peindre qu'une feuille de l'arbre. Et il est là, il pleure, il dit « Mais ah, mon Dieu, mais j'ai réussi à faire... Le tableau n'est même pas terminé. » Et il doit partir. Mais voilà comment l'histoire se termine. Au terme du voyage, c'est-à-dire après sa mort, Nigel arrive dans une contrée céleste quand tout à coup, quelque chose attire son regard. Et voilà ce que Tolkien écrit. Devant lui se trouvait l'arbre, son arbre achevé. Si l'on pouvait dire ça d'un arbre vivant, dont les feuilles s'ouvraient, dont les branches croissantes se courbaient dans le vent, que Nigel avait si souvent senti ou deviné, et qu'il avait si souvent échoué à rendre. Contemplant l'arbre, il leva les bras et les ouvrit tout grands. « C'est un don, » dit-il. Toutes les feuilles sur lesquelles il avait jamais peiné se trouvaient là, telles qu'il les avait imaginées plutôt que comme il les avait faites, et il y en avait plein d'autres qu'il aurait pu faire si seulement il avait eu le temps. L'arbre était achevé. Qu'est-ce que cette histoire nous enseigne ? D'abord, elle nous rappelle la vanité du travail. C'est important de terminer aussi avec ça. La vanité du travail dans cette vie, que vous soyez perfectionniste comme Tolkien ou non, n'est-il pas vrai qu'on peut s'imaginer tellement plus que ce qu'on va réellement faire dans notre vie ? Et c'est frustrant. On aimerait faire tellement plus. Et on imagine plus et on ne peut pas. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas autant doué qu'on l'aimerait, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on est perfectionniste et on n'arrive pas à faire les choses comme on le voudrait. C'est déjà très frustrant. Mais vous voyez, si cette vie est tout ce qu'il y a, s'il n'y a que cette vie sous le soleil, que nous allons mourir un jour, que tout sera fini, alors la situation est bien pire. Parce qu'on va disparaître, le monde va disparaître, et rien, absolument rien de ce que vous faites jour après jour n'a de sens. Tous nos efforts, même les meilleurs, sont absolument vains. Sauf si Dieu existe. Si le Dieu de la Bible existe, et s'il s'est fait homme en Jésus pour notre salut, s'il est ressuscité et que cette vie n'est pas la fin de tout, alors, au contraire, tout effort pour le bien, accompli en réponse à l'appel de Dieu, a une valeur éternelle. Et c'est ce que Paul affirme quand il dit au verset 8 que chacun recevra selon du Seigneur le bien qu'il aura lui-même fait. Ou dans le passage parallèle en Colossiens 3, tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. Voilà la nouvelle passion que nous donne l'Évangile. Rien de ce que nous faisons pour le Seigneur n'est vain. Tout peut avoir une valeur éternelle. Et rassurez-vous, en fait, c'est hyper rassurant, je trouve. Vous allez faire qu'une ou deux feuilles pendant votre vie, c'est tout. Vous n'allez pas faire plus. Mais ce n'est pas grave. L'arbre existe vraiment. Et je crois que ça doit nous encourager. Merci pour votre attention. Je ne sais pas s'il y a encore des questions suite à ce deuxième message. Je suis désolé de ne pas pouvoir aller encore plus dans les détails. Il y a tellement de choses à dire. C'est un sujet tellement vaste, j'aurais voulu dire plus. Mais j'espère que ça aura pu apporter quelques réponses déjà à vos questions.
Voilà, les micros peuvent circuler. Qui a une question ? Comme tout à l'heure, voilà, on attend un petit peu et puis après on se rend.
dans la perspective de vivre le travail sous le regard de Dieu, il y a un verset qui m'interpelle de Paul qui dit « Priez sans cesse ». Mm. Est-ce que vous pourriez commenter ça dans le monde ?
Je ne peux pas commenter grand-chose, si ce n'est que c'est vrai. C'est un oubli énorme dans ce que je viens de dire. Je pense qu'effectivement, la place de la prière pour accompagner notre vie de travail est tellement importante. Et que le problème, bien souvent, si on n'arrive pas à appliquer ces principes, c'est parce qu'on n'a pas une vie de prière régulière et vivante tous les jours. Parce que c'est ça, en fait. Travailler pour un public, et que ce soit le bon public, comment est-ce qu'on fait ça ? Il n'y a pas de recette miracle. Il faut qu'on soit devant le Seigneur tous les jours, dans la prière. Et donc, je pense qu'effectivement, la place de la prière est très importante. Et par rapport au fait de prier sans cesse, moi, je vois qu'on a des exemples dans la Bible de gens qui étaient au travail et qui priaient. Néhémie, qui était proche du roi et qui adressait des prières, on pourrait dire spontanées, sans cesse, on pourrait dire au Seigneur. Et je crois qu'on a aussi cet appel-là dans les situations difficiles qu'on peut vivre, de prier sans cesse, des petites prières au travail, on peut le faire. Ouais.
Oui, juste une réflexion que j'avais par rapport à l'excellence dans le travail pour un chrétien. Chose que je suis tout à fait d'accord. Ouais. Je pense qu'il y a un risque aussi, c'est qu'aujourd'hui, une entreprise, l'objectif d'une entreprise, je ne sais pas si c'est une notion qui parle à tout le monde, c'est d'arriver à un seuil de non-compétence. Ces employés, c'est qu'ils arrivent au maximum de ce qu'ils sont compétents pour, au niveau de leur capacité professionnelle. Mmh. Et quand on est excellent dans son travail, l'objectif de l'entreprise, ça va être de vous proposer une promotion pour montrer encore, démontrer votre excellence dans cette promotion, ainsi de suite. Et qui dit promotion dit aussi plus de travail, plus de responsabilités, et donc forcément une implication directe sur votre vie de famille, l'implication que vous pouvez avoir auprès de vos familles, votre implication auprès de votre église, dans votre église aussi, dans l'implication dans l'église. Et ça, c'est vrai dès les études. Parce que souvent, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'on encourage, il y a raison d'une certaine manière, à ce que nos enfants réussissent leurs études, et on les amène dans les études les plus... les plus utiles ou les plus...
Poussées ou un peu...
Voilà, plus valorisantes, merci. Et pareil dans le boulot. Et ce que je voulais juste dire, c'est que je pense qu'il faut être excellent dans son travail, mais il faut aussi, en tant que chrétien... En tout cas, c'est pour moi part ce que j'ai essayé de faire, même si j'ai pas été toujours excellent, c'est pas dans le sens ça que je dis, mais avoir des garde-fous. Et dans le sens savoir qu'est-ce qu'on est prêt à accepter et qu'est-ce qu'on ne veut pas accepter dans sa carrière professionnelle. Parce que si on n'a pas ces garde-fous, le risque c'est d'être excellent, d'accepter, et d'avoir des regrets familiales ou ecclésiales par la suite. Il faut aussi avoir cette pensée, il me semble, dans notre réflexion, dans notre carrière, dans notre travail.
Ouais. Voilà, simplement. J'ai donné en fait ce message il y a quelques mois dans un autre contexte, et sur ce point, j'ai une réaction d'une femme médecin qui m'a dit justement ça. En fait, elle m'a dit je cherche l'excellence, mais mon problème c'est que justement, je fais toujours plus et mes chefs me demandent toujours plus et comment gérer ça. Et c'est vrai que c'est effectivement délicat de trouver l'équilibre. Je pense qu'une chose qui peut nous aider, c'est pas évidemment pas une recette miracle. Mais c'est de se rappeler qu'on a parlé de vocation ce soir, se rappeler qu'on a plusieurs vocations. On est d'abord des chrétiens, disciples de Christ. Ensuite, si on est marié, époux ou épouse. Ensuite, si on est parent, père ou mère. Et ensuite seulement, on est employé. Et je pense que quand on voit, si tout d'un coup on constate que cette quatrième vocation prend la place sur toutes les autres et commence à nous empêcher, pour être très concret, d'avoir le temps adéquat pour l'Église et pour la famille, qu'il y a des questions à se poser, effectivement des limites à mettre, je pense, mais c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Après, dans le milieu, je suis d'accord.
Alors moi, j'ai une question par rapport à la précarité de l'emploi. Donc on a parlé du chômage, on a parlé du travail, mais on a aussi ceux qui sont en conditions précaires. Et je voulais savoir comment, oui, l'excellence, mais comment on fait pour se dire, notre travail peut se terminer d'un jour à l'autre. Et que, qu'on le veuille ou non, on est excellent, mais c'est quand même notre gagne-pain aussi.
Bien sûr.
Et comment on peut gérer ça au quotidien, sachant que voilà, on ne sait jamais à quelle sauce on va être mangé.
Je pense que sur les principes, ça, à mon avis, ça ne change pas. Mais évidemment, ça va être peut-être un autre type d'excellence qu'on va viser. Ça va être de simplement être dans un cas d'un travail où on peut le perdre du jour au lendemain. On sait bien que du coup, on ne construit peut-être pas sur des années. Et donc, ça ne va peut-être pas être une recherche de l'excellence comme quelqu'un qui a un travail, un poste où il va faire de la formation continue ou j'en sais rien. Mais ça peut être dans les petits actes du quotidien, aujourd'hui, de faire bien mon travail. En sachant que c'est pas, le but n'est pas de garder mon... Si je fais bien mon travail, ce n'est pas dans le but de garder mon travail. C'est dans le but de plaire à Dieu. Et que c'est lui qui pourvoira un travail ou qui permettra que je le perde dans le cas où je le perds. Mais je sais pas quoi dire de plus. Je pense qu'effectivement c'est ce que j'ai essayé de montrer en disant justement il y a tellement différents types de travail. Il y a des gens qui sont au chômage, des gens qui sont à la chaîne, il y a des gens qui travaillent dans les entrepôts, et puis il y a des gens qui font ce qu'ils aiment faire. Et effectivement c'est pas pareil pour tout le monde, mais je pense que le principe de chercher l'excellence, c'est-à-dire de faire ce qui est bien et de faire notre travail bien, ça reste vrai quand même.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Ok. Moi, je voulais poser une question à la base. Elle l'a posée. Et du coup, je pense que je peux intervenir parce que Dieu vient juste de faire quelque chose dans ma vie. Si ouais. ça peut
Tout à fait,
encourager quelqu'un.
Ouais.
Et moi, je pense que souvent, on dit qu'on attend que Dieu agisse et parfois, il nous attend, nous. Il attend qu'on prenne possession de ce qu'il nous a fait comme promesse. Et parfois, dans certains travails, on va vouloir impressionner soit le patron, et puis il va nous faire une exigence qui est en dehors de notre foi. C'est quelque chose qui n'a rien à voir avec. Et puis là, on va prendre position, et Dieu, il attend justement ces moments-là pour qu'on prenne position et pour ouvrir d'autres portes. Parce que moi, j'ai accepté, on va dire au départ, je ne voulais pas perdre ce travail-là, mais on m'a demandé de faire quelque chose qui était en dehors de ma foi, et c'était le seul travail que j'avais. Et puis j'ai refusé. J'ai quitté ce travail pendant que je savais que j'avais une famille et que je devais en prendre soin. Et Dieu, il a honoré le fait que j'ai dit non à ça, que je ne voulais pas... Voilà. Et 2 mois après, j'ai trouvé un meilleur travail avec un salaire qui était presque le double. Donc, je pense que souvent, ce n'est pas toujours évident. Mais en tant que chrétien, parfois, Dieu, il attend qu'on voit, est-ce qu'on vit vraiment la foi. Et puis, voilà.
C'est vrai qu'on a des exemples bibliques aussi de ça, de gens qui avaient un travail pas précaire dans le sens où vous l'avez dit, mais précaire dans le sens où ils pouvaient le perdre, voire perdre la tête. Pensons à Daniel et ses amis. On peut penser à Esther dans le palais. Et voilà, dans des situations totalement où ils sont entourés de non-chrétiens et on leur demande parfois de faire des choses qui allaient contre leur foi. Et c'est vrai qu'on voit qu'il y a cette attitude de confiance en Dieu au risque de mon travail, au risque de ma vie dans leur cas, c'est pas le cas heureusement ici, mais je pense que, comme vous dites, Dieu honore notre obéissance aussi quand on saisit de ses promesses.
Mais notamment au niveau de l'intégrité, ce que je trouve compliqué dans le monde du travail, c'est qu'aujourd'hui, le monde est tellement brisé et perverti que la question que je me pose, c'est on peut être éthiquement bon dans son travail, mais quand on arrive à certaines sphères, soit, même si ce n'est pas nous qui faisons le tort, on est au courant de certaines choses, où l'entreprise fait des choses, où des sous-traitants font des choses, et en fait, j'en arrive à me demander si dans tous les boulots que j'ai fait dans ma vie, il y avait toujours des choses qui étaient malsaines. Quoi. Et dans ce cas-là, c'est où est-ce qu'on met le curseur ? Parce que sinon, soit on arrête tout et on vit comme un ermite, et en même temps, on n'est pas amené à faire ça. Et d'un autre côté, est-ce que quand ça nous concerne nous-mêmes, on prend une position, mais quand c'est dans la boîte et c'est fait dans un autre département, un autre service, est-ce qu'on est complice ? Enfin, c'est compliqué, l'intégrité, je trouve, l'éthique dans le travail.
C'est compliqué. Je pense que là où c'est compliqué même de discuter sur ce sujet, c'est que c'est beaucoup aussi une question de conscience personnelle. Je pense que ça a beaucoup à voir là-dedans. Si on peut continuer à travailler dans cette boîte, sachant certaines choses et que c'est OK avec notre conscience parce qu'on n'est pas nous-mêmes impliqués, tant mieux. Je pense que c'est le principe que nous donne la Bible, que si on est en accord avec notre conscience, on peut le faire par la foi et c'est bon. Je pense que c'est toujours important de se rappeler qu'on est dans le monde de Genèse 3, justement. Parce que sinon, en particulier, il y a des chrétiens, j'en connais, qui ont une conscience très aiguë sur ces questions-là. et on fait plus rien et on est sans arrêt en train d'être mal parce que pour des choses dont on n'est pas vraiment responsable. C'est juste qu'on est dans le monde de Genèse 3 et qu'il y a de la malhonnêteté. Il y a de la... Donc je pense que tout en faisant très attention, parce qu'effectivement il y a des choses où on doit apprendre à dire non, mais je pense qu'il y a une part de péché et de, qui vont toujours être là, qui vont toujours traîner avec notre travail, et on doit aussi l'accepter, en fait, je pense.
En fait, quelque part, je rajoute juste, c'est pas forcément lié au travail, mais c'est lié au monde dans lequel on vit.
Oui,
ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on utilise un smartphone, un téléphone, il est fabriqué à partir de minerais qui sont prélevés en Afrique par des enfants.
C'est ça,
enfin,
voilà.
Je sais pas, il y a plein de problèmes éthiques à toute l'utilisation, en fait.
Tout
et
à fait.
On participe un peu au péché mondial, en fait.
C'est ça. Ouais.
Moi, je voulais juste, par rapport à ce que Stéphane a dit, je trouve que c'est intéressant et en même temps, du coup, on revient sur les questions des priorités, que c'est vrai que le travail, le métier arrive, mais je pense que du coup aussi, une des notions importantes, c'est l'équilibre que Dieu donne dans la Bible par rapport au repos. Du coup, on n'a pas tous les mêmes capacités et Dieu demande le repos qui nous est nécessaire.
Absolument.
Pour qu'on puisse bien travailler, en fait.
Ouais, effectivement, ça c'est tout un sujet que dont j'ai absolument pas parlé, mais la question du repos, du sabbat, enfin, c'est là dans le texte de la Genèse, on voit Dieu lui-même qui travaille, qui se repose, il y a énormément de choses qui pourraient être dites, mais effectivement, c'est un équilibre qu'on doit garder aussi, absolument. Ouais.
Merci beaucoup. Vraiment, on a beaucoup apprécié. Tu nous as bénis. Est-ce que tu voudrais bien, s'il te plaît, nous partager un sujet de prière te concernant pour que nous, on puisse modestement prier pour toi, pour que Dieu travaille pour toi.
Donc, vous le savez, je suis pasteur Alex de Domaine. À côté, et j'aimerais bien que vous priez pour notre église. Ça se passe très bien, on est très reconnaissant, mais on est un peu à un stade dans notre église où on doit réfléchir un peu à l'avenir de l'église. Il y a un peu un tournus, une nouvelle génération qui arrive, et on doit réfléchir un peu aux orientations à prendre, et c'est un sujet où il faut beaucoup de sagesse, et donc je vous serais reconnaissant d'autre part que vous priez pour l'église, et puis pour moi en particulier dans la réflexion par rapport à l'avenir. Donc, merci beaucoup pour ça.
Bien, je vous propose, pour ne pas qu'on s'endorme, qu'on se lève. Et je vais juste conclure. Et avant ça, je vous souhaite à tous une très bonne nuit de repos. Un dimanche reposant pour repartir au taquet lundi. Notre Dieu, merci pour tout ce que tu nous as communiqué ce soir. Merci de nous avoir rappelé que tu es le Dieu travailleur qui nous a créé à son image, avec en nous le désir, le besoin, la vocation de travailler. Et Seigneur, dans ce monde qui est désormais brisé, nous t'appelons ce soir ensemble au secours pour que tu nous aides à voir et à travailler dans ce monde comme toi, pour toi, par toi, et que tu nous donnes toutes les provisions nécessaires et que tu nous aides en tant qu'Église, en tant que peuple, à nous encourager les uns les autres, à viser l'excellence, à viser la persévérance et à viser de faire tout pour la seule audience qui est importante, c'est la tienne. Merci parce que nous avons l'assurance, comme nous l'a rappelé Joël, que lundi matin, tu vas nous visiter au travail. Que cette perspective nous renouvelle. Et nous voulons maintenant aussi te prier pour Joël, Anne, le petit Rubens, et te demander que tu les bénisses dans leur travail consacré à ton Église, dans leur ministère, que tu renouvelles leur force. Et Seigneur, on sait que qu'on soit dans l'Église ou dans une entreprise, c'est les mêmes défis. Et Seigneur, nous te prions vraiment pour que tu lui donnes tout le discernement, que tu conduises aussi cette Église qui nous est chère également, à avancer dans les réflexions, à être à l'écoute de ta voix, de ta direction, et que tu permettes vraiment un discernement communautaire qui soit sans appel, et que tu donnes, Seigneur, à l'Église les moyens de franchir une nouvelle étape, d'écrire un nouveau chapitre, de rentrer dans un nouveau travail, une nouvelle mission que tu as déjà préparée d'avance pour elle. Au nom de Jésus. Amen.